Bonsoir. Les ONG de défense des droits de l'homme menacent d'accuser la RDC devant l'Assemblée des États partis au statut de Rome pour refus de coopérer à l'arrestation d'Omar El-Béchi, président soudanais recherché par la CPI pour notamment crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En réaction, le gouvernement congolais estime qu'il n'est pas question d'arrêter le président du Soudan puisque c'est le COMESA qui l'a invité à Kinshasa et non la RDC. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Professeur Chibangu Kalala. Il est président du parti politique Notre Beau Pays, parti de la majorité présidentielle. Il est aussi professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Bonsoir, Professeur Chibangu Kalala.
Bonsoir, Guimaki.
Professeur Jacques Joly, il est sénateur de l'opposition et cadre du parti politique MLC. Il est professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Bonsoir, Professeur Jacques Joly.
Bonsoir, Guy. Bonsoir, tout le monde.
Et Maître Georges Kapiamba, il est président de l'ONG Association Congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Bonsoir Maître Georges Kapiamba.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir tout le monde.
Plusieurs réactions parmi lesquelles celle de Thierry Machagiro de Goma au Nord Kivu. Je pense que les États africains doivent bannir l'impunité. Le gouvernement congolais doit respecter les engagements internationaux qu'il a pris librement. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Près de 80 ONG de défense des droits de l'homme ont demandé au gouvernement congolais d'arrêter et transférer à la CPI le président soudanais Omar El-Béchi. Elles ont déposé une plainte au parquet général de la République à ce sujet. Elles désapprouvent l'invitation de Béchir à participer au sommet du COMESA qui vient de se clôturer à Kinshasa. Selon les ONG congolaises, la RDC, de par ses engagements au traité de Rome, se doit de coopérer avec la CPI en livrant le président soudanais. Mais le porte-parole du gouvernement précise que ce n'est pas le gouvernement congolais qui a invité Omar El-Béchi, c'est plutôt le COMESA, et d'ajouter que la RDC a des obligations qu'elle respecte dans le cadre de l'Union africaine. On écoute le ministre Lambert Mende, joint par Jeff Ngoy.
Tout ce que nous demandons à nos ONG, c'est de prendre acte du fait que la République démocratique du Congo, leur pays, a des obligations vis-à-vis de l'organisation régionale COMESA, qui a invité le président Al-Béchir à venir participer à un sommet du COMESA à Kinshasa. Ensuite, la République démocratique du Congo a des obligations vis-à-vis de l'Union africaine, qui a pris une position très claire vis-à-vis des mandats émis contre des chefs d'État africains en exercice. Ceci dit, la seule chose que l'on peut compléter à cela, c'est que ces obligations internationales prises par la RDC sont aussi contraignantes que les engagements de la RDC en sa qualité de membre du statut de Rome. Donc nous sommes là face à une contrariété majeure, c'est déjà suffisamment difficile. Je pense que ce n'est pas le lieu de provoquer des polémiques. Nous demandons la compréhension des uns et des autres.
Maître Georges Kapiamba, je rappelle que vous êtes président de l'ONG Association Congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre démarche, vous, des ONG?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. En fait, nous sommes des organisations congolaises qui sont engagées dans la lutte contre l'impunité. Dans cette démarche, nous avons reçu les informations, bien que c'était tard, en date du 25, que le président soudanais monsieur Omar El-Béchir allait arriver à Kinshasa pour participer au sommet du COMESA. Et lorsque nous avons vérifié les informations qu'elles s'étaient avérées vérifiables, nous avons immédiatement échangé avec tout le monde pour savoir quelle position prendre par rapport à l'existence de deux mandats lancés contre lui. Voilà que toutes les ONG nous sommes dit, il faut appeler rapidement le gouvernement congolais à prendre des dispositions, soit pour demander au président Béchir de ne pas atterrir à Kinshasa, ou s'il le laissait atterrir à Kinshasa, mais qu'il soit procédé à son arrestation et sa remise à la CPI conformément aux obligations internationales de la RDC prises dans le cadre du statut de Rome. Mais nous avons aussi mentionné qu'en dehors de ces obligations, il y a l'article 3 du Code pénal livre premier qui fonde les droits du procureur général de la République à pouvoir poursuivre toute personne contre laquelle il peut y avoir des soupçons des commissions des faits infractionnels susceptibles d'être punis sur les territoires congolais d'une peine allant au-delà de 2 mois.
Vous dites que c'est les 25 derniers que vous avez appris que le président El Béchi était invité au sommet du COMESA. Et les 25 coïncident avec la date où Mme Bensouda, procureure de la CPI, avait demandé à la RDC de pouvoir coopérer dans les dossiers El Béchi. Est-ce que ce n'est pas la réaction de Mme Bensouda qui vous a poussé, n'est-ce pas, à sortir de votre laurier?
Non, pas du tout. Par contre, c'est à partir de nos informations, de notre communiqué de presse, que Mme Bensouda a pu mettre en mouvement aussi les dispositifs de son office pour solliciter de la chambre préliminaire de demander à la RDC de pouvoir exécuter ses obligations en rapport avec les 2 mandats lancés contre le président Béchir. Lorsque vous suivez la situation, il a fait cette requête tard la nuit parce que personne n'était au courant jusqu'aux alentours des 17h que le président Béchir allait arriver à Kinshasa. Mais nous avions déjà toutes ces informations et déjà vers 16h, 17h moins, nous avions déjà rendu public notre communiqué de presse et nous avions toutes les informations provenant de sources fiables.
C'est vrai que la RDC a l'obligation, n'est-ce pas, d'exécuter les mandats de la CPI, mais lorsque vous avez mené cette démarche, vous êtes rappelé que la RDC a aussi pris des engagements avec l'Union africaine et le ministre Mendela a même rappelé.
Oui, d'abord, j'ai suivi la réaction du ministre Mende. Je note que c'est une deuxième réaction parce que la première, il l'a faite sur les antennes de la RFI. Et il n'avait pas dit la même chose. Il a dit, les éléments sont là, chacun peut les vérifier sur le site de RFI. Il a dit que le président Omar El Béchir était invité par le président Joseph Kabila. Mais j'ai entendu tout à l'heure que lorsqu'il est intervenu sur les antennes de Radio Capi, il a changé. Il a dit que c'était sur l'invitation des commerçants. Donc là, il y a déjà deux choses différentes. Alors par rapport à cette position qui semble se fonder sur une résolution de l'Union africaine, je pense que nous nous sommes déjà exprimés plusieurs fois et nous le disons encore qu'il n'y a aucune disposition aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous l'indique, qui peut fonder le gouvernement de la RDC à recourir à la résolution de l'Union africaine pour ne pas exécuter ses obligations prises dans le cadre d'un traité multilatéral comme le statut de la Cour pénale internationale. Parce que l'Union africaine n'est pas une organisation qui a une ascendance sur la Cour pénale internationale. Et puis, il ne faut pas oublier que le mandat lancé contre le président Omar El Béchir procède d'une situation référée à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une grande organisation qui se situe au-dessus de l'Union africaine. Donc, je pense que le débat à ce niveau-là ne peut pas être celui que le ministre Mende a voulu justifier.
Maître Kapiambia, lorsque vous avez initié cette démarche, vous espériez qu'à travers cette démarche, vous allez obtenir l'arrestation du président El Béchi, ou c'est une démarche que vous avez menée juste pour faire parler de vous?
Non, pas du tout, mais chacun doit faire son travail. Chers journalistes, nous sommes dans une société où chacun s'est fixé un mandat. Nous avons les nôtres. C'est en tant qu'organisation de la société civile, nous travaillons pour la lutte contre l'impunité. Nous devons veiller à ce que notre gouvernement s'acquitte de ses obligations prises au niveau international dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Donc ce n'était pas seulement pour faire parler de nous, c'est un travail. Nous accomplissions notre devoir en tant que citoyens congolais, citoyens africains, mais aussi les citoyens du monde. Qui doit se battre à côté de tous les autres pour faire triompher la lutte contre l'impunité.
Maître Kapiamba, il y a la réaction de Jules de Kinshasa qui dit « Je salue la position du gouvernement congolais. Étant un pays indépendant, la RDC n'a pas de compte à rendre à ces fameuses ONG qui veulent être sous les projecteurs médiatiques afin de faire plaisir à leurs maîtres de l'Occident qui utilisent la CPI pour terroriser les dirigeants africains qui menacent leurs intérêts occultes. » C'est Jules de Kinshasa.
Alors, notre compatriote Jules me semble ne pas être suffisamment informé de l'évolution du monde aujourd'hui. Il doit savoir que la RDC n'est pas un pays qui vit à l'écart des autres États de ce monde, il est peut-être sous-informé sur le fait que la RDC a ratifié les statuts de Rome et que dans le cadre de ces statuts de Rome, il y a notamment l'article 27 qui dit que aucune personne ne peut prétexter d'avoir la qualité officielle comme c'est la qualité de chef de l'État pour pouvoir éviter ou échapper à l'arrestation sur base d'un mandat de la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale ne terrorise personne.
Merci, professeur Chibang Kalala. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Notre Beau Pays, parti de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi professeur des droits internationaux à l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez cette question? Les ONG accusent la RDC d'avoir refusé d'exécuter le mandat de la CPI. Et pour sa part, les porte-parole du gouvernement disent qu'il n'appartenait pas à la RDC d'arrêter le président soudanais parce que ce n'est pas la RDC qui l'a invité, c'est plutôt les COMESA qui l'a invité.
Merci Guy Maté. D'abord, je vous remercie pour cette invitation et je salue mon collègue professeur Ndioli que je n'ai pas vu il y a un certain temps et
confrère Kapiamba.
Mon confrère. Eh bien, M. Guimaté, je vais parler ce soir strictement en juriste. Je ne vais pas mêler ce débat qui est très intéressant avec des considérations d'ordre politique. C'est vrai. La décision qui a été prise par le gouvernement, c'est une bonne décision.
Celle de ne pas arrêter le président El Béchir.
Mais bien sûr, oui. L'explication donnée par le gouvernement, évidemment, ça fait sourire, n'est-ce pas ? Pour ne pas dire autre chose. C'est pas convaincant, c'est pas solide.
Ah bon, mais, quand il dit que ce n'est pas lui qui a invité El Béchir ici ?
Bon, ça fait sourire.
C'est pas un argument détail ?
Ça fait sourire, ce genre d'explication. Mais je suis d'accord avec la décision du gouvernement de ne pas procéder à l'arrestation du président soudanais Omar El Béchir. Je vais m'expliquer, surtout pour les auditeurs de Radio Okapi, faire un peu de pédagogie. Je vais donner deux exemples, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans cette affaire. Nous avons plusieurs ambassadeurs ici à Kinshasa. Je prends au hasard l'ambassadeur d'Angola. La CPI lance un mandat d'arrêt international contre l'ambassadeur d'Angola à Kinshasa, pour avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. C'est un exemple que je donne. Eh bien, est-ce que le gouvernement congolais peut procéder à l'arrestation immédiate de l'ambassadeur d'Angola à Kinshasa et le transférer ou le remettre à la CPI? Non. La réponse se trouve dans le statut de Rome lui-même. C'est pour cela que je peux dire que le gouvernement aille chercher des explications ailleurs, parce que la réponse se trouve dans le statut de Rome, dans le statut lui-même de ce pays. Je renvoie les auditeurs de Radio Okapi à l'article 98 du statut de Rome. Ils peuvent lire. Et donc le gouvernement congolais ne peut pas arrêter l'ambassadeur d'Angola ou un autre qui serait poursuivi par la CPI. Pourquoi ? Parce que le droit de la CPI n'exprime pas toutes les règles de droit international. Le gouvernement congolais, c'est vrai, il a assumé des obligations dans le cadre du statut de Rome, mais ce ne sont pas les seules obligations internationales que le gouvernement congolais ou que l'État congolais a assumées dans le cadre de ses relations internationales. Donc, à l'article 98 du statut de Rome, il est dit très clairement que la CPI ne peut pas faire pression sur un État pour le contraindre à exécuter un mandat d'arrêt, par exemple, sur cas d'espèce, qui le contraindrait à violer d'autres obligations internationales de cet État, notamment en ce qui concerne les immunités de l'État ou les immunités diplomatiques. Parce qu'un ambassadeur étranger qui est à Kinshasa, il est protégé par les règles du droit diplomatique. Il jouit de la juridiction pénale, de l'immunité de juridiction pénale totale et absolue. Il jouit de l'inviolabilité totale. Donc on ne peut pas procéder à l'arrestation d'un ambassadeur étranger ici à Kinshasa. Et l'article 98 est très clair que s'il est poursuivi par exemple par la CPI, eh bien la CPI doit s'organiser pour régler cette question avec le pays, dans le cas d'espèce l'Angola, pour que ce pays lève d'abord l'immunité de cet ambassadeur pour évidemment qu'on permette sa remise à la CPI.
Alors, donc, il y a une réserve. Pour le cas du président El Béchir, la CPI, c'est bien que c'est un chef de l'État qui est couvert par des immunités, mais pourquoi, en dépit de ça, il continue à les poursuivre?
Justement, je vais y arriver. Voilà, un cas très clair. Un ambassadeur ici peut prendre une arme, tuer 150 Congolais ici à Kinshasa, on ne va pas l'arrêter. Eh bien, on va déclarer personne à non grata, il va aller chez lui, c'est dans son pays qu'on va le poursuivre.
Même quand il y a flagrance.
Il peut tuer 300 Congolais à bout portant. C'est un fou et sanguinaire, il est tué, on ne peut pas l'arrêter et le juger ici. Ça, c'est clair. Mais non, nous avons connu nous-mêmes un autre problème dans notre pays, c'est que ça s'appelle, avec l'affaire de Yerodia. En 2000, au mois d'avril 2000...
Alors, ministre des Affaires étrangères.
Il est ministre des Affaires étrangères. La Belgique lance un mandat d'arrêt international pour qu'on arrête Abdoulaye Yerodia Ndombassi. Parce que il a tenu des propos qu'on considérait comme des crimes contre l'humanité au mois d'août 1998. Le gouvernement congolais réagit à l'époque avec le président Mouzé au mois d'octobre 2000, le 17 octobre 2000, et lance une attaque judiciaire contre la Belgique devant la Cour internationale de justice en disant, écoutez, la Belgique viole la souveraineté de la RDC en lançant un mandat d'arrêt international contre son ministre des Affaires étrangères en fonction. Donc, ça viole les règles du droit international. Et donc, il faut que la Cour internationale de justice condamne la Belgique à annuler son mandat d'arrêt et à remettre les choses en l'état. Eh bien, le procès a eu lieu. La Cour internationale de justice s'est prononcée le 14 février 2002 et a condamné la Belgique. Et a demandé à la Belgique d'annuler immédiatement, le mandat d'arrêt qu'elle avait lancé contre Yerodia en tant que ministre des Affaires étrangères en exercice. Et il a demandé à Belgique de contacter même les autres gouvernements qui avaient reçu ce mandat en leur demandant, écoutez, c'est fini, depuis l'arrêt de la Cour, j'ai annulé ça, vous ne pouvez plus encore inquiéter Yerodia. Qu'est-ce que ça signifie? C'est parce que le ministre des Affaires étrangères jouit de l'immunité des juridictions pénales totales, de l'inviolabilité totale sur les territoires d'autres États. Revenons maintenant à la situation du président Omar Béchir. Il est président en exercice du Soudan. Ce n'est pas n'importe qui. Et en droit international coutumier, un président, un chef d'État en exercice, en fonction, bénéficie de l'immunité des juridictions pénales totales et absolues, de l'inviolabilité pénale totale et absolue, dès lors qu'il se trouve sur le territoire d'un autre pays. Donc, Béchir est à Kinshasa, avec l'accord du gouvernement congolais, et donc on ne peut pas porter atteinte à sa personne, on ne peut pas violer sa personne, on ne peut pas envoyer des policiers ou des agents de sécurité pour l'arrêter et lui mettre des menottes au poing. Ça n'existe pas.
La CPI, en demandant à la RDC d'arrêter El Béchir sur le territoire congolais, elle savait bien que cela violerait, n'est-ce pas, cet article-là du statut de Rome. Pourquoi, en dépit de ça, il a quand même demandé à...
Mais vous comprenez, je crois que ces juristes de la CPI auraient mieux fait d'abord de faire un tour à la Cour internationale de justice, qui est juste à côté. Ce sont des voisins, c'est juste à côté à La Haye, pour leur dire, est-ce qu'un État peut procéder à l'arrestation d'un chef d'État étranger qui est sur son territoire, un chef d'État en fonction, en exercice, parce que le droit international l'interdit.
Merci.
Je comprends l'objection, je vais terminer par là, de dire, oui, mais écoutez, quand il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, le statut de Rome, interdit cela. Non. Ça, c'est une confusion. Une chose est de lancer des poursuites pénales contre un chef d'État en fonction. Ça se fait. Nous avons le cas actuel du président kényan. Oui. Autre chose est d'exécuter ce mandat et d'arrêter un chef d'État en fonction sur le territoire d'un autre État où il est en séjour officiel. C'est tout à fait différent. Le droit international ne le permet pas. Je vous ai donné ici l'exemple de Yerodia, qui était d'ailleurs un ministre des Affaires étrangères et même pas un chef d'État en fonction.
Merci, professeur. Professeur Jacques Joly, vous êtes sénateur de l'opposition et cadre du parti politique MLC. Vous êtes aussi professeur des droits constitutionnels à l'Université de Kinshasa. Votre analyse par rapport à cette situation?
Merci beaucoup. Je voudrais aussi à mon tour saluer le professeur Tshibom Kalala et ainsi que le président de la CAGE et en même temps aussi tous les auditeurs. Nous sommes effectivement très heureux de faire ces débats qui mettent, n'est-ce pas, à jour un certain nombre de questions que nous avons toujours soulevées à propos de la CPI et surtout de sa coopération avec notre pays. Et je vais comme mon prédécesseur, je souris aux échappatoires présentés par le gouvernement. Et le gouvernement, pour une fois, affirme sa contrariété majeure. Le gouvernement sollicite la compréhension, mais nous ne sommes pas, et comme a dit le collègue, nous ne sommes pas en matière de gentillesse, nous sommes ici en matière de droit. Et la République démocratique du Congo, dans des cas précédents, dans le cas notamment de Goudjolo et des autres, n'a jamais hésité. Et la République démocratique du Congo s'est toujours présentée comme l'élève modèle. Et la République démocratique du Congo a pris même la capacité de saisir, n'est-ce pas, la CPI, de renvoyer devant la CPI la situation de ses propres compatriotes, de ses nationaux, ce qui est une évolution majeure dans les droits internationaux. Alors, cette cour, ce gouvernement qui a toujours fait preuve, n'est-ce pas, parfois même des précipitations, aller arrêter ces députés qui ont l'immunité à 2h du matin pour les transférer parfois nuitamment sans management devant la CPI. Voilà que...
Là, vous faites allusion au député Fidèle Babala.
Fidèle Babala. Et d'ailleurs, dans la note de nos amis des ONG, on a soulevé ces cas. La République s'est engagée. Et c'est toujours prévalu d'être l'élève modèle pour appliquer l'article 86 du statut de Rome qui dit les États parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes. Et chaque fois qu'on a soulevé les questions des immunités, la République démocratique du Congo s'est toujours référée à l'article 27 du même statut pour dire le défaut de pertinence de la qualité officielle. Et c'est une jurisprudence constante sur cette question. Et aujourd'hui, là, d'une démarche de contrariété, de demande de compréhension, la République démocratique du Congo, du moins son gouvernement, fait le rétropédalage pour affirmer aujourd'hui que nous avons des arguments. C'est un chef d'État, ce n'est pas nous qui l'avons invité, c'est l'Union africaine, mais la position de la République démocratique du Congo dans la démarche de l'Union africaine a toujours été ambiguë.
Professeur Jacques Joly, vous avez suivi les explications du professeur Thibaut Kalala qui s'est référé à un article du statut de Rome et qui dit qu'il n'est pas autorisé, n'est-ce pas, de pouvoir arrêter le président de la République d'un État donné sur le sol d'un autre État.
Nous sommes ici à la fois dans le texte, je vous ai donné l'article 86, je vous ai donné l'article 27, et la République démocratique du Congo n'a jamais recouru à d'autres dispositions. Nous sommes là en matière de coopération et d'assistance. Et la République démocratique du Congo n'a pas seulement agi sur demande des ONG. Madame la procureure, qui est un parti qui coopère très bien avec la République, a saisi le gouvernement de la République démocratique du Congo. La présidente de l'Assemblée des États partis, qui a toujours loué la coopération de la République démocratique du Congo sur cette matière, a saisi le gouvernement de la République
Mais
du Congo.
Toutes deux sont censées savoir qu'il y a un article, n'est-ce pas, qui n'autorise pas cela.
Dans tous les cas, je crois que le président de la CAJ vous a dit, il y a primauté de statut de Rome et il n'y a pas jamais eu contrariété dans la pratique et dans la jurisprudence de la Cour.
Mais le prof Thibaut Kalala dit que le statut de Rome ne prime pas sur toutes les règles internationales.
Je suis pas internationaliste, mais je suis circonspect parce que les statuts de Rome, nous sommes ici, n'est-ce pas, dans le jus cogens, pratiquement. C'est le cœur même, n'est-ce pas, du droit international pénal. Et pourquoi la République démocratique du Congo se souvient, elle seulement, de cette question, alors que le président Béchir ne va pas dans d'autres pays? Et nous sommes ici dans un cas où la Cour a été saisie à la demande, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité. Ce sont les deux cas, le cas de la Libye et le cas, n'est-ce pas, du Soudan. Donc, nous estimons que nous comprenons l'attitude de la République du Congo, mais nous avons toujours souligné la démarche à géométrie variable de la RDC en matière de coopération. Hier, lorsqu'il fallait transférer Tangada, on nous a dit qu'au nom de la paix, on n'allait pas le faire. Mais lorsque on est dans le broutille en matière de subornation prétendue de témoins, la République démocratique du Congo devient, n'est-ce pas, un État qui fait le rétropédélage. Donc, nous n'entrons pas dans les détails, nous demandons à la République d'avoir une attitude cohérente dans sa coopération avec la Cour pour ne pas faire de la Cour pénale internationale une institution politique ou politicienne devant laquelle on règle les cas ou des problèmes internes où on se dégage des problèmes internes.
Professeur Jacques Joly, sur le plan des droits, la démarche des ONG peut se justifier, et sur le plan politique, cette démarche, vous pensez qu'elle est cohérente?
Vous savez, nous, notre position a toujours été que la République démocratique du Congo est dans une demande de coopération. C'est une demande de coopération. Et la coopération doit toujours se faire en fonction du droit interne. Dans la coopération, on ne demande pas de violer les droits internes. Il y a la problématique de la réception de ces droits et de sa mise en œuvre. Mais ce que nous avons toujours déploré dans la démarche de la République, c'est une approche de deux poids, deux mesures. Lorsque il faut livrer l'opposition de l'opposition, la République devient une République modèle en matière de coopération. Mais lorsqu'il faut appliquer les mêmes obligations dans le cas intéressé, nous avons cité le cas de Tangada, ou d'autres cas, personnes qui courent la rue, et notamment dans ces cas, et je crois que pour une fois, la CPI va se rendre compte que la République démocratique du Congo n'est pas un État coopérant, c'est au contraire, c'est un État non coopérant qui coopère avec la Cour pour des intérêts à court terme. Voilà ce qu'il faut constater.
Merci Maître Georges Kapiamba. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Je suis Franklin Matumaini de Bukavu dans la province du sud Kivu. La démarche de ces ONG n'était qu'une flatterie à leurs partenaires, car ces ONG savaient très bien que cette arrestation était impossible dans le sens qu'elle devait provoquer des incidents diplomatiques graves pour la RDC qu'elle ne saurait pas facilement gérer. Mais pour faire plaisir à leurs partenaires, elle devait faire cette demande. Mais c'est sûr que de l'autre côté de la carte, c'est-à-dire intérieurement, ces ONG ont appuyé la réponse du gouvernement, car quelle humiliation pour l'Afrique qu'un président africain en exercice soit arrêté par un autre pays africain et transféré à la CPI.
Maître Georges.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de répondre à notre ami de Bukavu,
Matumaini,
revenir sur des petites choses que le professeur Tshibangu Kalala a évoquées. Je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord sur une chose en ce qui concerne les dossiers Yerodia. Ce que peut-être Maître n'a pas mentionné, c'est que ce que nous tous nous avons lu, et beaucoup de gens peuvent lire, que la Cour internationale de justice, dans sa décision, a mentionné que dans le cas de Yerodia, il ne faudrait pas qu'on considère que les immunités qui avaient été évoquées doivent s'opérer aussi devant une justice ou une juridiction internationale. La Cour a précisé dans la même décision et a réaffirmé que l'immunité qui avait été évoquée n'est applicable que devant les tribunaux nationaux étrangers, pas devant les cours internationales. Je crois que c'est un élément très important. Il ne faudrait pas qu'on le laisse passer au risque de peut-être
d'embrouiller d'autres esprits. Au sujet de l'intervention de Matumaini, de Bukavu.
Au sujet de Matumaini, je pense que notre ami n'est pas suffisamment informé sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour, mais aussi sur l'évolution même de ce monde. Nous ne sommes plus à une époque où on pensait que la RDC doit régler toutes ses affaires à elle seule. Nous sommes maintenant à une époque où les affaires qui se traitent en RDC intéressent aussi les autres citoyens africains, les autres citoyens du monde. Parce que on a constaté qu'à un certain moment, il y avait certains dirigeants de certains États qui évoquaient toujours cette souveraineté pour pouvoir punir, pour pouvoir faire souffrir leurs citoyens, leurs populations, au nom seulement de cette souveraineté. Donc, il y a eu déjà évolution. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que cette cour est là seulement pour punir les Africains et que, aussi, les ONG n'ont pas fait ça pour plaire à leurs prétendus partenaires. Les ONG ont fait ce travail en s'acquittant seulement de leurs obligations en tant que citoyennes ou personnes intéressées à la question de la lutte contre l'impunité. En République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique. Je voudrais terminer, si vous me permettez, par rapport à la disposition, à l'exemple que Maître avait donné ici, parce que c'est aussi important. Maître a donné l'exemple d'un ambassadeur. Il a même indiqué que même s'il arrivait à écraser, à tuer 150 personnes, qu'il ne pourra pas être inquiété parce que jouissant des immunités. Non, moi je lui dis non. Parce que peut-être mettre, il faudrait lire aussi l'article 27 du statut de Rome. La RDC a déjà ratifié. En ratifiant, la RDC a introduit le statut de Rome, ses droits de la CPI, dans les droits internes de la RDC.
Maître, donc à ce jour, par rapport, la qualité par rapport à l'article selon lequel il n'est pas autorisé d'arrêter un chef de l'État sur un sol étranger.
Non, cet article n'existe pas. Moi, je vous dis que cet
dans
article.
Le statut de Rome.
Non, cet article n'existe pas parce que moi, je vous indique l'unique disposition qui règle cette question des immunités, qui dit clairement que la qualité officielle n'opère pas en matière de poursuite des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ou avoir participé dans la commission des crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, une autre disposition n'existe pas. Mais je reviens à l'article 98. Avant d'aborder l'article 98 que Maître a évoqué, il y a l'article 97. J'aurais bien voulu que Maître évoque ça sous forme d'un conseil qu'il aurait dû donner au gouvernement congolais. Il est clairement prévu que lorsque un État requis pour exécuter une requête ou un mandat de la part de la Cour et que celui-ci fait face à certaines difficultés, il doit tout à fait se sentir consulter la Cour et présenter les difficultés qui se présentent afin de requérir le point de vue de la Cour. Est-ce que la RDC l'a-t-il fait? La RDC ne l'a pas fait. L'article 98. Moi, je pense qu'ici, il s'agit d'une situation différente. Lorsqu'il s'agit d'un État tiers, j'aurais bien voulu que Maître lise le point 1 jusqu'à la fin. Il s'agit d'une hypothèse d'un État tiers. Ça veut dire qu'un État non parti au statut de Rome. Lorsque la Cour demande à ce que cet État puisse exécuter les mandats parce que une personne ressortissant d'un État parti au statut de Rome aurait commis des crimes qui sont de sa compétence et se trouverait sur le territoire de cet État, à ce moment-là, merci, l'État peut soulever ses dispositions.
Merci,
et en faire même prévaloir.
Merci, M. Georges.
En tout état de cause, nous avons des cas aujourd'hui, une jurisprudence, le Rwanda, qui a laissé Bosco Ntaganda aller à la CPI.
Merci Maître Georges. Professeur Tubankolala, vous avez suivi Maître Georges qui estime que l'article que vous avez, auquel vous avez fait allusion n'existait pas dans les statuts de Rome.
Bon, écoutez, dès matin, je ne vais pas prolonger des discussions avec le confrère Kapiamba parce qu'il n'est pas spécialiste de la question. Bon, l'article 98 est très clair. D'abord, j'aimerais d'abord souligner ceci. Ce ne sont pas des ONG qui sont membres de la CPI. Ce sont les États qui sont membres de la CPI. Le statut de Rome, n'est qu'un traité international comme tous les autres traités. Il n'est pas supérieur à d'autres États. Ce n'est pas seulement au terme du traité de la CPI que la RDC ou d'autres États ont assumé des obligations internationales. Nous avons par exemple la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques qui protège les ambassadeurs, les diplomates qui sont sur le territoire d'autres États et depuis des années. Et donc, c'est cela qui a été réservé à l'article 98. C'est très clair. On n'a pas le temps de lire cet article ici. Et donc, on ne peut pas procéder à l'arrestation d'un ambassadeur qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI sur le territoire de l'État où il se trouve parce qu'il faut respecter
les autres obligations internationales assumées par l'État en question, notamment en matière des immunités de l'État et des immunités diplomatiques. Et dans le cas de Béchir, il s'agit des immunités de l'État. Et c'est ce qui avait été soulevé par la RDC elle-même dans l'affaire Yerodia. Et donc, lorsque un chef d'État étranger se trouve sur le territoire de notre pays, eh bien, il bénéficie de l'immunité de juridiction pénale totale, il bénéficie de l'inviolabilité physique totale. On ne peut pas l'arrêter. Le droit international coutumier est très clair à ce sujet, et c'est cela qui est réservé par l'article 98. Je vais terminer sur ce point-là par dire ceci. Il ne faut pas faire de confusion, Selma. Cette question-là ne doit pas être sous l'angle du militantisme. Bien. Ce sont les États qui ont des obligations et il ne peut pas y avoir des contradictions entre des obligations assumées par un État, des obligations internationales. C'est ce qui est réservé par l'article 198. Et donc, il faut faire la part des choses. Il y a la question des poursuites qui peuvent être engagées contre un État, disons, contre un chef d'État étranger par la CPI. Et là, il ne peut pas invoquer la qualité officielle pour échapper aux poursuites. Nous avons le cas actuel du Kenya. Ça, c'est une chose. Eh bien, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais il y a un autre aspect du problème. Mais il faut arrêter ce chef d'État, Guy Maté. Il faut envoyer des policiers pour l'arrêter. Si on l'arrête dans son propre pays, il n'y a pas de problème. Mais s'il se trouve sur le territoire d'un État étranger, comme le cas de Béchir, ici chez nous, eh bien, on ne peut pas l'arrêter sur le territoire de la RDC.
La RDC a une armée et une police.
Oui, oui. S'il l'arrête, mais il viole d'abord, l'État congolais va violer le droit international, le cas Yerodia. Et en plus, eh bien, ça sera un incident diplomatique très grave qui peut même provoquer la guerre internationale entre la RDC et le Soudan. Donc, c'est pas de la plaisanterie. Il ne faut pas faire du militantisme partout, faire la confusion. Donc, les poursuites pénales, c'est une chose. Eh bien, l'arrestation physique d'un chef d'État étranger qui est en voyage officiel sur le territoire de notre pays, eh bien ça, le droit international coutumier l'interdit. Nous avons le cas de Yerodia et la Cour internationale de justice a donné raison à la RDC en demandant qu'on annule le mandat d'arrêt qui était lancé contre lui par la Belgique. Donc, il faut faire la confusion.
Nous allons prendre pour vous cette intervention de Jado Guilima de Bukavu, au Sud-Kivu.
J'adore Igilima à partir de Bukavu, province du Sud-Kivu. Les organisations internationales et tant des actrices du droit national public ont même tout les États. Ces ONG des droits de l'homme devraient plutôt menacer d'accuser l'organisation qui a invité le président soudanais à s'acharner sur la RDC, à mon avis, se traiter de cible. Par ailleurs, l'accord du statut de l'homme ne se trouve pas opposé même aux États non signataires. Si, pourquoi le président soudanais est-il prêt jusqu'à arrêter?
Je ne sais pas si vous avez compris, ils pensent que les ONG en accusant la RDC se sont trompés des cibles et devaient plutôt accuser l'Union africaine.
Oui, écoutez, sur cette question-là, Guy Maté, je vais tranquilliser l'auditeur. Eh bien, pour moi, le gouvernement congolais n'avait même pas à s'excuser ou à demander la compréhension de qui que ce soit, des ONG ou de qui que ce soit, parce que son comportement est assis sur le droit international. J'ai évoqué le cas d'Yerodia, c'est une thèse qui était défendue par la RDC elle-même, pour dire qu'on ne peut pas arrêter un ministre des Affaires étrangères de la RDC en fonction, sur le territoire d'un autre pays. Et donc la Cour a tranché l'affaire de manière brutale et même définitive en sanctionnant la Belgique. Et donc aujourd'hui, la même RDC ne peut pas adopter une attitude différente dans l'affaire de Béchir, du président soudanais. Et donc, ce président est ici chez nous, sur invitation, avec l'accord du gouvernement congolais. Il est en séjour officiel. C'est un chef d'État en exercice. Il jouit de l'immunité des juridictions pénales absolues. Il jouit de l'inviolabilité absolue. On ne peut pas l'arrêter.
Professeur Jacques Joly, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Mahagi en province orientale.
Vital Ouachi de Mahagi en province orientale. La communauté internationale a tous les moyens possibles d'arrêter ou de faire arrêter un président sous mandat, même à son domicile. Pourquoi chercher l'impossible pour piéger la RDC vis-à-vis de l'Union africaine?
Mais je crois qu'on n'a pas piégé la RDC. La RDC s'est fait elle-même piéger. Et nous avons toujours dit que dans ces droits nouveaux qui met un peu en parenthèse la question de la souveraineté, la question des immunités, on nous avait suivi ces débats sur l'article 98 qui pose la problématique des États tiers qui ne sont pas des États parties et qui requièrent dans ces cas-là l'accord de cet État tiers pour procéder, n'est-ce pas, à cette arrestation. Mais ici, la spécificité de ces droits internationaux, c'est justement de balayer, comme dit l'article 27, tout ce qui est immunité. Et ce n'est pas par hasard que l'Union africaine est en train de se tirailler au niveau de la Cour à ce qui concerne la situation du Kenya. Et l'Union africaine s'est fait rembrouer par le Conseil de sécurité pour dire que la qualité de chef d'État n'est pas une excuse pour ne pas poursuivre ou exécuter le mandat de la CPI. C'est pourquoi nous avons toujours dit à la République démocratique du Congo d'aller doucement, doucement, et de ne pas instrumentaliser, la Cour dans ses, n'est-ce pas, considérations et enjeux internes. C'est ce qu'a fait la Cour. Parce que parmi les questions qui ont été soumises à la Cour, c'est la RDC qui a pris l'initiative. Et dans les cas que nous avons soulevés, et qui, d'ailleurs, a été avec la RCA pour pousser la RCA dans le cas de Jean-Pierre Bemba. Et nous avons dit toujours à la République, au gouvernement de la République, attention, c'est un couteau à double tranchant. Mais voilà que l'affaire nous revient et qu'on nous demande d'appliquer, n'est-ce pas, les dispositions pertinentes de la Cour qui nous demande de coopérer pleinement. Et à ce moment-là, on évoque les résolutions de l'Union africaine. Une résolution n'a pas la même portée juridique que les dispositions d'un traité. L'invitation de la commissaire n'obère pas le pouvoir que l'accès pays s'est donné ou a reçu du mandat du traité pour demander une coopération. Donc, sur ces points-là, je crois que la RDC doit être renvoyée à, n'est-ce pas, au point 18 du chapitre 4 de son protocole d'accord intérimaire. La RDC a signé avec la CPI un protocole pour coopérer à cette matière et de coopérer sans réserve.
Professeur Jacques Joly, qu'est-ce qu'il faut pour, dans l'avenir, n'est-ce pas, essayer d'éviter ce genre de situations, hein? Il y a d'un côté cet impératif de pouvoir entretenir des bons rapports avec entre États, et cet impératif de pouvoir, n'est-ce pas, respecter les engagements qu'on a pris avec les institutions internationales. Comment faire pour concilier les deux impératifs?
On nage là dans ce qu'on appelle l'obligation de coopérer et la faculté de coopérer. On a vu dans les cas de pays comme la Côte d'Ivoire, ils ont livré Gbagbo, mais ils se sont refusés d'exécuter le mandat à ce qui concerne Simone Gbagbo et Blaise Goudé. C'est pourquoi nous avons dit à la RDC de ne pas faire le jeu de deux poids deux mesures et d'instrumentaliser la CPI. La question de la CPI va continuer à se poser dans ses rapports avec les États, malheureusement, et surtout des États fragiles.
Maître Georges, il faut faire très attention. Votre conclusion en deux mots?
Oui, je voudrais dire que il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le cas de M. Hérodia, il faut préciser que la Cour internationale de justice a parlé des immunités lorsqu'il s'agit des mandats lancés par des tribunaux nationaux et pas des tribunaux internationaux.
La conclusion que le gouvernement congolais n'a pas à s'excuser ou à demander de compréhension.
Merci.
Il y a un chef d'État étranger qui est sur son territoire. Il ne peut pas procéder.
Merci,
nous avons
compris. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Kelly Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Julien Nyamouni. À la technique, on avait Jean-Noël Mokondo et devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon suivi du programme sur Radio Okapi.